autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour nous interroger sur le bonheur. Oui, le bonheur, envers et malgré tout ce qui nous arrive. Comment trouver le courage de vivre pleinement avec le tragique de l'existence? Et si c'était ça, le but de la philosophie, apprendre à vivre, pour citer Sénèque, et notre invitée, la pop philosophe Marianne Chaillon, qui convoque dans son dernier ouvrage « Où est donc le bonheur ?» aussi bien les philosophes que les romanciers, artistes, poètes ou musiciens, pour déconstruire notre représentation commune du bonheur. Et si souhaiter être heureux était le moyen le plus sûr d'être malheureux? Et s'il n'y avait pas de recette du bonheur? Et s'il ne s'agissait surtout pas de vouloir supprimer le malheur, la peine, la douleur de nos vies, et qui le pourrait d'ailleurs, mais bien de réaliser que ce sont les deux faces de la même médaille? Alors comment apprendre à dire oui à la vie dans son ensemble, comme nous le rappellera également le philosophe Souleymane Bachir Diagne? Comment pratiquer le bonheur ici et maintenant sans se bercer d'illusions et sans naïveté? Sacré défi à partager autour de la question « Où est donc le bonheur ?» Bienvenue sur ces traces avec un fameux professeur, celui du cercle des poètes disparus.
Que la vie existe et l'identité. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime.
C'était quoi le cercle des poètes disparus? Je ne crois pas que l'administration actuelle verrait cela d'un bon œil.
Je déclare reconstituer le cercle des poètes disparus.
Eh bien, les poètes disparus vouaient leur réunion à sucer la moelle secrète de la vie. Je voulais chasser tout ce qui dénaturait la vie pour ne pas, au soir de la vieillesse, découvrir que je n'avais pas vécu.
Désormais, appelez-moi Wanda.
Je dois vraiment réagir.
Carpe diem!
C'est dans ses rêves que l'homme trouve la liberté. Cela fut, est et restera la vérité.
Bienvenue dans le cercle des poètes disparus. Marianne Chaillon, bonjour.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Provence à Aix. Autour de la question « Où est donc le bonheur ?» question qui donne son titre à votre ouvrage et qui vient de paraître aux éditions de l'Équateur et dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs, car c'est un vrai manuel de vie, d'autant plus essentiel dans les temps particulièrement troublés que nous vivons. Alors précisons, Marianne Chaillon, que vous êtes professeure de philosophie à Marseille, une professeure bien dans la lignée de celui que l'on vient d'entendre du cercle des poètes disparus, qui vous inspire évidemment. Vous dites même dans cet ouvrage, commencez chaque année alors votre cours par une question: peut-on penser par soi-même? Sacrée question. Et la terminer, votre cours de philosophie, à la fin de l'année, sur le bonheur, précisément. Pour vous, c'est ça que vous souhaitez transmettre de la philosophie, penser par soi-même et cette énorme question du bonheur, pas du tout gnangnang ou bisounours?
Oui, oui, c'est vrai. C'est l'ambition que je me donne. J'ai l'énorme responsabilité d'être le professeur de philosophie pour les élèves que j'ai devant moi. Et on n'en a qu'un de professeur de philosophie, puisqu'on la rencontre en terminale.
C'est vrai.
Et je démarre le cours avec cette question, peut-on penser par soi-même, qui est un peu troublante, mais qui précisément vise à provoquer un séisme dans l'esprit de mes élèves. Ah bon? Et comment pourrait-il que je ne pense pas par moi-même? Leur faire prendre conscience des aliénations dont nous n'avons pas conscience, et commencer à douter de tout. Et nous, tout au long de l'année, nous allons remettre en cause nos préjugés en termes esthétiques, en termes d'éthique, en termes épistémologiques. Nous allons cheminer et à la fin de l'année, nous parvenons enfin à cette question qui est la promesse de la philosophie, la promesse du bonheur. Hein. La philosophie est née...
C'est ça la philosophie
dans... Et oui, la philosophie, elle est née précisément pour nous donner les moyens d'être heureux. On allait voir le philosophe pour qu'il guérisse notre âme des troubles dont elle pouvait souffrir et qu'elle nous permette d'atteindre le bonheur. Et conçu comme ataraxie hein, chez les Grecs, c'est-à-dire absence de troubles. Et donc, on fait de la philosophie pour se mettre en route vers le bonheur.
Alors, oui, c'est ça. Oui. Se mettre en route, hein, c'est ça en fait. Parce que le bonheur, c'est très très compliqué. On va y venir évidemment.
Oui, oui, j'allais vous dire, vous l'aviez très bien dit dans votre ouverture, il ne s'agit pas en philosophie de présenter le bonheur un peu comme le font les manuels de développement personnel, avec des recettes très simples et avec une vision un peu naïve de ce qu'est le bonheur. Vous allez voir, nous allons parler aujourd'hui, le bonheur peut être extrêmement... parler du bonheur en philosophie peut être éprouvant, peut être douloureux, on ne va pas se bercer d'illusions.
C'est ça, et justement j'ai envie de vous demander de commencer par ce que le bonheur n'est pas. Pas en fait, Marianne Chaillan, parce que donc le bonheur, c'est pas refuser le malheur, c'est pas, enfin voilà, qu'est-ce que le, c'est pas éviter le tragique pour la philosophe que vous êtes.
Non, non, et c'est très important de commencer par là. Vous avez raison, parce que nous recherchons tous le bonheur.
Mais
vous, moi, vos auditeurs, tous nous recherchons le bonheur.
Bien sûr.
Et nous sommes tous un peu dupés par une définition commune du bonheur comme un absolu. Le bonheur, nous avons tous hérité de cette définition que j'ai dit être commune, mais qui vient aussi d'un philosophe qui s'appelle Kant. Le bonheur, c'est un absolu. C'est cet état de plénitude auquel nous parviendrions, cet état de satiété, cet état dans lequel nous aurions réalisé tous nos désirs. Mais vous voyez bien que cette définition-là, du bonheur comme complétude, comme plénitude, comme absolu, elle est totalement illusoire. Vous l'avez rappelé, nous ne pourrons pas exclure de l'existence tout un tas d'expériences douloureuses. Et donc, si le bonheur, c'est cet absolu, si c'est ce ciel bleu sans nuages, alors il faut faire le deuil tout de suite du bonheur. Nous serons profondément malheureux. Or, ce que j'essaye de défendre dans le livre... c'est que sans se voiler la face sur ce que nous réserve l'existence, c'est-à-dire il y aura des nuages, il y aura même des orages, ce n'est pas un désaveu de la possibilité du bonheur, parce que le bonheur, ce n'est pas ce ciel bleu sans nuages. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu cette couverture du livre, qui est un tableau de Nicolas de Staël et qui représente
des nuages,
ciel avec des nuages, exactement. Ouais. Et la vie, c'est ça, c'est accepter l'entièreté des expériences qui peuvent nous être réservées.
Voilà pourquoi vous commencez d'ailleurs véritablement dans cet ouvrage par fracasser, j'ai envie de dire carrément, notre idée du bonheur. Vous citez évidemment Schopenhauer, on ne peut rien attendre de bon de la vie, une affaire qui ne couvre pas ses frais. Vous commencez par briser un peu menu à la hache nos illusions, nos faux espoirs.
Oui.
Et de toute façon, ce sur quoi on va chacun trébucher.
Oui, et c'est un moment un peu douloureux à traverser pour les lecteurs, mais il faut le passer. Hein, et je rassure vos auditeurs qui sont venus écouter l'émission sur
mieux,
le bonheur.
Oui, oui.
Voilà. Alors il y a un moment, mais il faut passer par cette épreuve de la lucidité pour arriver à autre chose. Si on se berce d'illusions, si ça serait terrible de dire oui, le bonheur est possible, un jour nous parviendrons à cet état de plénitude. Non, là, ça serait totalement illusoire et toxique, parce que si on fait croire, c'est ça qui est terrible avec la définition du bonheur, c'est que si on croit à cette définition du bonheur comme absolue, alors on se sent profondément malheureux, parce qu'on sent bien que nous-mêmes, nous ne sommes pas complets, nous ne sommes pas dans cet état de plénitude. Et donc nous nous disons, alors j'ai fait quelque chose de pas bien, j'ai raté quelque chose, et nous devenons profondément malheureux. Il faut détruire cette définition, il faut regarder la vie en face, et effectivement je convoque des philosophes qui peuvent paraître pessimistes, mais qui sont en vérité réalistes hein, sur ce que la vie nous réserve comme douleur. Et une fois qu'on a bien regardé le réel en face, ça peut nous donner envie de baisser les bras, ça peut. Ou ça peut aussi nous dire, bon, et alors quoi ? Est-ce qu'on peut, et la vie étant donnée, étant ce qu'elle est, est-ce qu'on peut tout de même espérer atteindre le bonheur ? Et si oui, lequel ? Et c'est là que je propose une nouvelle définition.
Avant de vous laisser donner votre nouvelle définition du bonheur, je voudrais nous arrêter encore sur ce mot avec un autre philosophe, Alexandre Jolien, qui sait lui aussi de quoi il parle et de quoi vous parlez, à la fois fracassé par la vie et par son handicap. Alexandre Jolien est peut-être un des philosophes actuels les plus inspirants aujourd'hui, auteur entre autres du Métier d'homme et des Carnets d'insouciance. Il est même acteur et réalisateur du film Presque, on ne naît pas homme mais on le devient, toujours visible sur nos écrans, autour duquel nous l'avions reçu voici quelques semaines. Écoutez la question qu'Alexandre Jolien nous a laissée pour vous, Marianne Chaillan.
Alors, bonjour Marianne Chaillan, j'espère que vous allez bien. Donc, la question, moi j'aime pas trop le bonheur, je préfère la joie inconditionnelle parce qu'il y a beaucoup de marketing derrière le bonheur et j'aimerais connaître votre avis. Merci pour tout.
Alors, votre avis, chère Marianne Chaillan, sur le bonheur, pas le bonheur marketing, hein.
Oui, mais j'ai eu le bonheur justement de partager le plateau de la Grande Librairie avec Alexandre Jolien, oui. Et nous sommes rendus compte qu'on était assez d'accord. C'est-à-dire que quand il dit « moi je préfère la joie », c'est déjà un premier pas extraordinaire par rapport à ce concept de bonheur qui est illusoire et toxique. Qu'est-ce que c'est la joie, hein ? La joie, c'est ne pas se duper sur le fait qu'il n'y a pas de plaisir durable. Ce que propose le bonheur, ce serait une joie qui dure. Ça n'existe pas et c'est pour ça que c'est terrible. Et se convertir à la joie, c'est accepter le caractère éphémère de l'existence, c'est accepter la finitude. C'est faire profondément preuve de sagesse, comme Alexandre Jolien, que de se convertir à la joie, que de nous dire « cherchons la joie », plutôt que ce bonheur marketing, plutôt que ce bonheur illusoire et toxique, auquel nous sommes soumis, pour ainsi dire, dans une forme d'injonction au bonheur permanente. Donc je suis tout à fait d'accord avec Alexandre sur ce point, mais je propose de faire un pas de plus. Et je crois que nous sommes d'accord sur ça aussi, c'est que le bonheur, précisément, n'est pas ce que le marketing nous vend. Hein, voilà, on l'a déjà expliqué. Il n'est pas dans un confort matérialiste. Il n'est pas du côté de l'avoir. Il est du côté de l'être. Il n'est pas du côté de l'absolu. Il est du côté de l'acceptation. C'est très difficile d'y parvenir. C'est très difficile. Mais
l'acceptation de quoi ? Au fond, de notre condition humaine. Parce qu'au bout, on va y aller. Au bout, il y a la mort, de toute façon.
Exactement. De notre condition humaine, du caractère fini de l'existence, du caractère éphémère de toute joie, de la nécessité pour nous de traverser l'épreuve de la douleur, du deuil, de la rupture, de la déception, mais aussi de la joie, du rire, du plaisir. Et en fait, le bonheur, c'est quoi ? C'est, je prends cette métaphore, je pense qu'elle est parlante, c'est comme on se présenterait à l'hôtel pour épouser quelqu'un et auquel on dirait « je te prends pour le meilleur et pour le pire », eh bien, le bonheur, c'est se tenir devant sa vie, celle qui a été, le passé que nous avons connu, et puis l'avenir que nous ignorons, mais qui nous sera réservé, et dire à notre vie « je te prends pour le meilleur et pour le pire ». Et si nous sommes capables d'aimer notre vie, pas simplement de la prendre, mais de l'aimer telle qu'elle est, alors je crois qu'on peut se dire heureux.
Voilà votre définition du bonheur. Un bonheur qui se pratique aussi, dites-vous, hein, Marianne Chaillant. C'est pas un bonheur dont on rêve ou qu'on ne fait qu'espérer ou qu'on attend. Bonheur, on va y venir. C'est un bonheur qui se pratique ici et maintenant, au jour le jour, à travers tout ce qu'on traverse. Et Dieu sait que, individuellement, dans nos vies, on traverse des choses qu'en ce moment, collectivement, sur la Terre, entre pandémie, changement climatique, guerre déclarée en Ukraine, on en traverse aussi beaucoup. Oui, c'est traverser tout ça.
Oui, vous avez raison, ça peut paraître paradoxal de parler aujourd'hui de bonheur. Hein. Comment parler de bonheur alors que nous sommes épuisés, là, après tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons appris de nous, des autres, de la vie. Moi-même, ça m'est apparu paradoxal d'écrire ce livre à ce moment-là, alors que ça faisait des années que je le portais
en moi. En pleine pandémie.
Oui, et puis je me suis rendu compte que le paradoxe n'était qu'un paradoxe en apparence, parce que précisément, le bonheur que je défends n'occulte pas l'aspect tragique de l'existence. Et donc, peut-être nous sommes étonnamment dans une période propice pour penser le bonheur et pour s'essayer au bonheur, c'est-à-dire pour essayer notre force. Et puis, c'est pas grave si on l'a pas, cette force-là d'aimer la vie, même si, pour reprendre la chanson de Renaud, le temps est assassin et emporte avec lui le rire des enfants. C'est pas évident d'aimer la vie. C'est pas facile. Mais être heureux, c'est ce que je défends, et c'est pas une idée que j'ai inventée. Je l'ai lu chez Camus, je l'ai lu chez Montaigne, chez Nietzsche. Le bonheur, c'est cette force d'aimer la vie telle qu'elle est, sans la rêver, sans vouloir qu'elle soit autre qu'elle soit. Hein, voilà, d'aimer notre condition humaine et tout ce qu'elle implique, aussi bien de joie comme de souffrance.
Comment ne pas fuir le bonheur, de peur qu'il ne se sauve. Allez, moi, c'est pas Renaud, mais c'est Serge Gainsbourg, dans la voix de Jeanne Birkin, que je vous propose tout de suite sur RFI. C'est lui qui ouvre cette question du bonheur.
Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve que le ciel azuré, vire au mauve, penser ou passer autre chose vaudrait mieux. Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve, se dit qu'il y a au vol, the rainbow, toujours plus haut, le soleil above, radieux. Crois en Dieu, crois en Dieu, même quand tout nous semble odieux, que notre cœur est mis à sang. rêve, apercevoir le bout de sa queue rose, ses yeux fiévreux. Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above, radieux. Crois aux yeux, crois aux dieux, même quand tout nous semble odieux. Que notre cœur est mis à sang et à feu. Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve. Avoir parfois envie de crier sauve. Qui peut savoir jusqu'au fond des choses est malheureux.
Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve. Serge Gainsbourg et Jeanne Burkin sur RFI. Nous sommes à votre compagnie. Marianne Chagnon, vous êtes philosophe, auteur de Où est donc le bonheur ? Point d'interrogation. Et j'avais envie de vous demander, au fond, est-ce que c'est pas ce qu'on fait un peu tous ? Alors, fuir le bonheur de peur qui ne se sauve ou fuir notre vie de peur qu'on ne souffre et qu'on ne soit malheureux, hein ? Je fais un peu le parallèle.
Alors... J'avais envie de dire pour commencer que ce titre magnifique de Gainsbourg montre une forme déjà de sagesse, c'est-à-dire que celui qui fuit le bonheur, de peur qu'il ne se sauve, a bien compris que ce que nous expérimentons de positif va disparaître. Et donc effectivement, il fuit le bonheur, de peur qu'il ne se sauve. On sait très bien que le moment de joie va passer. Mais là, le concept de bonheur que reprend Gainsbourg, c'est ce premier concept de bonheur, hein, pas celui que je défends, c'est-à-dire celui qui voudrait faire perdurer le moment positif. Alors, on préfère renoncer à l'idéal de bonheur plutôt que d'expérimenter la déception du passage du temps. Ce qui est déjà pas mal, hein, d'être dans cette forme de lucidité face à l'existence.
Oui, déjà on est lucide de ce qui se passe et du fait que le bonheur ne peut pas durer éternellement et que la vie, c'est les deux côtés de la médaille. Hein. C'est le bonheur, c'est les joies et les peines.
Tout à fait. Et vous évoquiez, vous, dans votre interprétation, quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire cette capacité qu'on a pour ne pas souffrir, finalement, à se retrancher soi-même de l'existence, c'est-à-dire à ne pas exister pleinement. Et ça, c'est très intéressant, parce que je développe ça avec un texte d'Albert Camus qui nous permet de penser la différence entre vivre et exister. Vivre, c'est ce que nous faisons tous, vous et moi, à partir du moment où nous sommes nés jusqu'au jour où nous mourons, nous sommes vivants. Très bien. Mais est-ce que nous existons ? Exister, c'est pas simplement vivre. Exister, c'est avoir à sa propre vie un rapport authentique, précisément. On parlait tout à l'heure de pensée propre. Est-ce que nous écrivons véritablement nous-mêmes notre propre histoire ? Est-ce que nous affirmons nos propres désirs ? Est-ce que nous nous sommes emparés de notre stylo pour écrire notre propre rime, pour reprendre les vers que citait le professeur du Cercle des Poètes Disparus, qui citait Whitman, que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Est-ce que nous nous sommes, vous, Caroline, moi, nos auditeurs, emparés du stylo pour, dans le peu de jours qui nous sont donnés à vivre, écrire l'histoire que nous voulons véritablement vivre? Si oui, alors nous existons. Et j'essaye d'expliquer dans le livre que peu importe les échecs, peu importe les douleurs, à partir du moment où nous avons ce courage énorme, et c'est épuisant, et que de courage faut-il pour le faire, mais à partir du moment où nous tentons d'exister, alors je crois que c'est parce que cela témoigne de notre amour de la vie. Et donc, à la fin des fins, cela montre que nous aurons été heureux. Parce que, peu importe que nous connaissions l'échec, être heureux, c'est justement s'élancer dans l'existence.
Exister. C'est ça. Être heureux, c'est exister. C'est ajouter sa propre rime au stylo ou de n'importe quel moyen. Mais ajouter sa propre rime. Oui. De quoi ? C'est ça, hein ?
Oui, et c'est aussi oser, pour reprendre un vers du poète Hölderlin, oser le péril qui sauve, c'est-à-dire oser se mettre en danger, oser prendre le risque de se perdre, oser sortir des sentiers battus, et comprendre que nous serons incomplets, comprendre que nous ne parviendrons jamais à nous sentir justifiés, à dire, eh bien voilà, très bien, ma vie avait un sens définitif. Non, nous ne parviendrons pas à cela. Nous allons écrire, nous allons raturer, nous allons même déchirer certaines pages de notre vie, et puis nous aurons le courage de les reprendre. Et puis un jour, il faudra bien accepter que le livre s'achève, et alors nous aurons exister. Et si nous l'avons fait, alors nous pourrons dire que nous aurons été heureux. Non pas de ce bonheur illusoire qui est celui des rêveurs ou des naïfs, d'Antigone qui croient qu'on peut avoir tout de suite et que ce soit entier, mais d'un bonheur lucide et tragique de celui qui connaît la nature de la vie et qui l'aime pour ce qu'elle est.
bonheur lucide et tragique. Tiens donc, autour de la question, où est donc le bonheur? Même si vous venez nous donner quelques réponses, je propose tout de suite un éclairage vu d'ailleurs, un éclairage tissé et métissé entre Dakar, New York et Paris. C'est celui du philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne, très sage penseur, spécialiste de la philosophie islamique, qu'il enseigne d'ailleurs à l'université Columbia à New York, où je l'ai joint par téléphone pour lui demander s'il rejoignait justement à la fois vos interrogations, vos réflexions sur le bonheur, Marianne Chaillant. Je crois que oui, on écoute tout de suite Souleymane Bachir Diagne.
Je suis heureux qu'il ait écrit ce livre et que son message soit justement celui-là, de ne pas être une espèce de forcené du bonheur, courir derrière des choses qui vont nous rendre heureux, et avec tous les conseils que l'on a aujourd'hui pour ce qui doit nous rendre heureux à tout prix. Et au contraire, savoir dire oui à ce qui arrive, comprendre que la vie est ainsi faite, qu'elle tisse ensemble, si vous voulez, des malheurs et des moments qui sont des moments plutôt de joie. Et je trouve que ce message, justement, résonne bien avec ce que je sais de l'histoire de la philosophie dans le monde islamique. Je vais vous citer une parole coranique, si vous voulez bien, qui dit que le bonheur se mélange au malheur. Cette phrase, je vais vous la dire en arabe et vous comprendrez tout de suite, même sans savoir l'arabe, l'entremêlement des moments de bonheur et des moments de peine. Cette phrase dit « Inna ma'al usri yusran ».« Inna ma'al usri yusran ». Elle le répète deux fois. En même temps qu'il y a des moments de contraction, si vous voulez, il y a des moments d'expansion. Et la vie est ainsi faite. Et vouloir que la vie soit autrement qu'elle n'est, c'est absurde. Et donc, le malheur consiste davantage à être comme un enfant gâté, à vouloir que la vie ne soit pas ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas aussi ce mélange de peine et de bonheur, ce qui est totalement absurde, et savoir dire oui à ce qui arrive. Ce n'est pas du fatalisme, ce n'est pas de la résignation, c'est au contraire véritablement comprendre qu'on est en mesure soi-même d'apporter sa propre capacité à être heureux dans le cours des événements. Parce que le cours des événements, nous ne le maîtrisons pas. En revanche, la disposition dans laquelle nous accueillons les événements, et en particulier la capacité où nous nous trouvons de dire oui à la vie, de dire oui à ce qu'elle nous apporte dans les moments heureux, et d'espérer justement le retour de ces moments heureux, ça, cette disposition-là, elle dépend de nous. Et je crois que si c'est bien là la leçon telle que je l'ai comprise de cet ouvrage, c'est un ouvrage qui nous est utile. C'est un ouvrage qui renoue avec la signification la plus profonde de la philosophie, qui est de nous apprendre à vivre. Ce n'est pas d'abord une manière de connaître, c'est effectivement une manière de vivre.
Merci Souleymane Bachir Diagne pour ce très beau témoignage. On entend effectivement dans cette phrase que vous nous avez citée la manière dont est tissé ensemble le malheur et le bonheur dans nos vies. J'ai envie de rajouter une question là-dessus, parce que quand je vous entends, je me dis que finalement, effectivement, les grands philosophes, les grands penseurs, les grands sages de différentes traditions ou religions ont quand même souligné ça aussi, dire oui à la vie. Comment se fait-il que ce soit si compliqué à l'appliquer alors que justement, on s'y retrouverait tous? Est-ce que vous auriez, alors c'est pas un conseil, mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus, Souleymane Bachir Diagne?
Mais je crois qu'en effet, malheureusement, il est aussi dans notre nature d'avoir une espèce d'impatience qui est constitutive de qui nous sommes. Nous sommes toujours orientés vers ce qui va venir et nous en oublions presque d'être heureux. Souvent, il arrive qu'on se retourne sur un souvenir, sur une photo nous rappelle quelque chose, et on se rend compte que c'était un moment de bonheur, mais on n'est pas sûr de l'avoir vécu pleinement comme il aurait fallu. Et parce que cette frénésie dans laquelle nous sommes, et qui s'est accélérée d'ailleurs aujourd'hui, fait que nous ne prenons pas le temps de nous arrêter. C'est ça la difficulté de la chose, si vous voulez. Savoir s'arrêter dans un monde qui nous invite à la frénésie et à cette orientation toujours vers ce qui va arriver et qui nous fait manquer ce qui arrive. Donc, c'est cela la difficulté. Ça demande une sorte de conversion, un art de s'arrêter, un art de se retourner sur soi, un art de méditer qui n'est pas toujours très simple. Et c'est en cela qu'on a besoin, effectivement, de méditer. Enfin, quand je dis méditer, je ne suis pas en train d'appeler du yoga, des choses comme ça. C'est simplement de faire le tour, justement, de s'arrêter un peu. Et si j'ai bien compris cet ouvrage, il rappelle également un certain nombre de leçons de l'histoire de la philosophie. Beaucoup de philosophes, mais également beaucoup de romanciers étaient dans cette direction. J'imagine qu'elle a dû également citer la fameuse fin de l'essai d'Albert Camus. Il faut imaginer Sisyphe heureux.
Absolument.
Sisyphe condamné à rouler un rocher, à faire monter un rocher qui va toujours dégringoler, mais qui se rend compte que ce rocher lui appartient. Donc, s'approprier le rocher, dire oui à son rocher, considérer que le contact de ses mains, de son corps avec ce rocher dont il connaît la texture, dont il connaît la senteur, etc., est le sien, et trouver son bonheur dans ce qui semblait être au départ une punition, voilà le genre de conversion à quoi nous invite un art d'apprendre à être heureux. Et c'est à la fois facile, si vous voulez, et difficile. Il est difficile de dire oui, mais il faut apprendre.
Il faut apprendre à dire oui, Marianne Chaillant. J'imagine que vous voulez réagir, puisque vous vous apprenez finalement, en tant que philosophe, à vos élèves en tout cas, peut-être, et à nous, lecteurs de votre ouvrage, Où est donc le bonheur, peut-être vous nous aidez à apprendre un peu, à dire oui, de temps en temps.
Alors déjà, je voudrais vous remercier, Caroline, de m'avoir offert ces merveilleuses minutes et ce merveilleux message de Souleymane Bachir Diagne. C'était vraiment très, 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 très beau à écouter. Il a parfaitement compris ce que je cherchais à faire dans mon livre. Même il l'explique peut-être mieux que moi encore. Et donc oui, apprendre à dire oui, cette conversion dont il parle, cesser d'être ce forcené du bonheur, comme il le dit, et travailler le rapport que nous avons au temps. Lorsqu'il parlait, je pensais à un texte de Pascal que je cite dans le livre, qui nous dit qu'effectivement, nous sommes toujours en train de rappeler le passé qui n'est plus, ou d'anticiper l'avenir qui n'est pas encore, et nous laissons échapper le seul temps dont nous disposons. Il a tout à fait raison de dire que s'il y a un conseil à donner, c'est effectivement de travailler ce rapport au temps et de renouer avec la philosophie effectivement comme art d'apprendre à être heureux, dire oui, tâche difficile, comprendre que la vie est tissée de l'envers et de l'endroit. J'aime beaucoup les mots qu'il a utilisés, qui sont les mots de Nietzsche, qui sont des mots qui résonnent aussi avec le vocabulaire de Camus, que je cite beaucoup
c'est
dans
ça,
le livre.
Vous le citez beaucoup, vous citez aussi le mythe de Sisyphe, mais c'est à travers la rabbine Delphine Horviller, il me semble, comme quoi les tissages et les liens se font...
Oui, c'est vrai, je cite aussi Delphine Horviller, plus sur l'idée d'incomplétude, sur l'idée d'accepter notre incomplétude.
Accepter
nos manques et comprendre que c'est pas du tout un échec, mais que c'est par là que jaillit le possible. C'est parce que nous sommes dans cette incomplétude que jaillit encore du possible et que nous pouvons prendre appui sur lui pour vivre encore. On trouve chez Montaigne quelque chose qui résonne avec les mots de Souleymane Bachir Diagne, et une philosophie qui peut vraiment, je crois, faire comprendre à vos auditeurs comment on peut parvenir à être heureux alors même que la vie est si éprouvante. C'est qu'il faut bien comprendre qu'il ne faut pas reprocher à la vie ni la vieillesse, ni la fatigue, ni la maladie. Il ne faut pas vouloir être un humain sans ce qui fait de nous des humains. Et que ce n'est pas aimer la vie que de lui reprocher son essence. On ne pourra jamais être heureux si nous reprochons à la vie d'être ce qu'elle est. Et notre bonheur dépend intégralement de nous, puisqu'il réside dans l'assentiment que nous donnons à la vie. Et donc, il faut cesser de blasphémer contre la vie, nous dit Montaigne. Lorsque nous nous plaignons, lorsque nous lui reprochons un certain nombre d'expériences douloureuses, nous blasphémons contre la vie. Et il faut se faire ce serment d'aimer la vie tout entière.
D'aimer la vie tout entière, d'aimer la vie jusqu'au bout, ça veut dire jusqu'au tragique, ça veut dire... jusqu'à non pas aimer la mort et non pas chercher la mort, mais ça veut dire aimer la vie jusqu'au bout. Vous citez aussi, là on est quand même dans du lourd, mais en même temps dans de l'inspirant, vous citez la poétesse, l'écrivaine Virginia Woolf, et notamment le film The Hours, qui commence par une lettre, la dernière lettre de Virginia Woolf avant de se suicider. C'est terrible cette lettre, et pourtant, dans cette lettre, il y a tout. Il y a aussi le bonheur d'avoir été là, il y a aussi l'amour et d'avoir fait partie de son histoire de vie. Extrait de The Hours avec cette lettre de Virginia Woolf.
Très cher, je me sens de nouveau sombrée dans la folie. J'ai le sentiment que nous ne viendrons pas à bout de ces horribles crises et que cette fois je ne guérirai pas. Je commence à entendre des voix. Et je n'arrive pas à me concentrer. Aussi vais-je faire ce qui me semble la meilleure chose à faire. Tu m'as offert le plus grand bonheur possible. Tu as été pour moi ce que personne d'autre n'aurait pu être. Je sais que je gâche ta vie. Et que sans moi, tu pourrais travailler. Et tu travailleras, je le sais. Tu vois, je n'arrive même pas à écrire correctement. Ce que je veux dire, c'est que tout le bonheur de ma vie, c'est à toi que je le dois. Tu as été parfaitement patient avec moi. Et d'une bonté sans égale. Tout m'a quitté. Excepté la certitude de ta bonté. Je ne veux pas continuer à gâcher plus longtemps ta vie. Je ne crois pas que deux personnes auraient pu être plus heureuses que nous l'avons été. Virginia.
Marianne Chaillant, cette lettre de Virginia Woolf, terrible, tragique et à la fois qui se termine avant son suicide. Je ne crois pas que deux personnes auraient pu être plus heureuses que nous ne l'ayons été.
Oui, j'ai découvert cette lettre en découvrant le film et ça a été pour moi un choc philosophique, existentiel, qui m'a donné une grande leçon. Et cette leçon, où finalement, je l'ai développée des années plus tard dans ce livre que je viens de publier. Quand Virginia Woolf dit « Je ne crois pas que deux personnes aient pu être plus heureuses que nous l'avons été », c'est paradoxal pour quelqu'un qui va mettre fin à ses jours. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle avait une si piètre idée du bonheur ?
Non.
Je ne crois pas que... Non. Elle est en train de nous donner précisément la leçon que j'essaye d'expliquer. C'est-à-dire que, peu importe... Elle a souffert, Virginia Woolf. Elle a souffert tellement qu'au jour où elle écrit cette lettre, elle ne peut plus poursuivre dans son existence. Mais... En disant « je ne pense pas que deux personnes aient pu être plus heureuses », ça veut dire qu'elle est justement capable de dire oui à sa vie telle qu'elle a été, faite de cette douleur-là, mais faite aussi de l'élan créatif, faite aussi des joies qu'elle a expérimentées, des désirs. Quand j'ai découvert ça dans une fiction, dans un film, et cette lettre est réelle, et cette force de Virginia Woolf, qui est capable d'aimer sa vie telle qu'elle l'a été, et de dire que cette vie est heureuse, m'a donné à moi une très grande leçon de vie. Et je ne dis pas que c'est facile, et je ne sais pas si j'y parviens tous les jours à aimer la vie, mais je pense profondément que si le bonheur existe... Il n'existe que dans cette capacité, dans cette force à aimer sa vie, à, comme Sisyphe qui roule son rocher, à juger que tout est bien, en dépit de tout, et non pas du tout dans ce concept naïf, illusoire, toxique et maltraitant de bonheur avec lequel on nous bassine à longueur de temps.
Aimer sa vie, c'est comme vous le dites, aimer tout. À nos auditeurs sur les réseaux sociaux, El Hadj du Sénégal nous dit « Ah, le bonheur !» Et c'est assez joli, il dit « En tant que philosophe, j'imagine que vous allez me donner votre point de vue sur l'épicurisme, le stoïcisme, on a parlé de Sénèque, apprendre à vivre. Est-ce que nous demande El Hadj, est-ce que les adeptes de ces écoles de pensée étaient heureux, justement, Marianne Chaillant ? Vous le dites vous-même, on n'y arrive pas tout le temps, mais est-ce que la philosophie de cette manière-là, lucide, qui nous invite à dire oui à la vie, est-ce que ça rend un peu, peut-être, heureux ? Est-ce que vous, ça vous rend heureuse ?
Je crois que c'est une grande question que pose votre auditeur, qui consiste à demander est-ce qu'on parvient toujours à vivre à hauteur de sa pensée ? On a des catégories de pensée. Est-ce que pour autant, on arrive à en faire des catégories d'existence? Est-ce qu'on vit à la hauteur de sa pensée? Et c'est en cela que la philosophie, en tout cas telle que je la comprends et telle que je la vis moi-même, c'est une tâche théorico-pratique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de déployer des concepts, mais d'essayer de les vivre.
De les vivre, oui.
De les vivre. Et ce concept-là de bonheur, il y a une lectrice qui est venue me voir après une conférence et qui m'a dit « J'aimerais bien vous revoir dans 20 ans et voir si vous êtes toujours d'accord. » J'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est un défi, bien sûr que c'est un défi, la vie, l'existence et le bonheur. Et il y a des jours où j'avoue, comme Sisyphe, le rocher pèse un peu plus lourd. Et il y a des jours où je parviens à redresser comme Sisyphe le regard, à contempler la vallée qui s'étend devant moi, en sachant bien que je retrouverai mon rocher au matin et qu'il il roulera pendant la nuit. Et je parviens à aimer la vie. En tout cas, si certains jours le rocher est plus lourd, comme pour Sisyphe et comme j'imagine pour vos auditeurs, il est sûr que la philosophie m'aide à vivre en ce sens qu'elle m'a au moins libérée de cette maltraitance qu'est le concept illusoire de bonheur.
Oui, c'est ça. On n'a pas besoin de faire semblant d'être heureux. Vous avez un passage là-dessus aussi sur ça va, est-ce que ça va?
Oui.
Quelle question qu'on pose, qu'on ne peut pas s'empêcher de poser à l'autre quand on le croise. Mais si on y répondait vraiment, ce serait plus compliqué que ça. Autre question sur les réseaux sociaux d'un autre auditeur, Aliou Djibril, il est à Cotonou, au Bénin, et il nous dit « Le bonheur ne se cherche pas, il se crée, dit-on. Malgré tout, n'y a-t-il pas une bonne part de fatalité dans la quête du bonheur? Ce qui sera, sera. La volonté seule ne suffit pas, le destin a son mot à dire. Vrai ou faux ?» vous demande Aliou Djibril. Justement, on parlait finalement de la grosseur de la pierre et des drames et de la tragédie plus ou moins terrible de chaque existence.
Oui, alors j'aime bien l'idée que le bonheur... Par exemple, il y a quelque chose que je déteste, c'est cette idée que si on avoue qu'on n'est pas pleinement heureux, c'est qu'on a raté quelque chose. Si le bonheur était uniquement une affaire de réussite personnelle, de volontarisme. Alors, de ce point de vue, ça me plaît de rappeler que dans le mot de bonheur, il y a l'idée d'une surprise. Le bonheur, c'est la bonne trouvaille. Donc, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement. Ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. Mais néanmoins, dans ce que j'essaye de développer, c'est l'idée que peu importe ce que le sort c'est nous ça. Réserve, il y a quand même, le bonheur dépend de nous, mais pas au sens où on ferait porter sur celui qui n'y parviendrait pas une forme d'échec, de culpabilité, pas du tout. Mais ça reste extrêmement douloureux, bien sûr, extrêmement difficile de se dire, eh bien voilà ce qu'est ma vie, voilà ce que sont ces manques, voilà ce que sont mes échecs, et pour autant j'accepte mon existence telle qu'elle est. Si on parvient à ça, alors là, je pense qu'on est au bonheur.
Autour de la question « Où est le bonheur ?», vous avez choisi d'écouter, et on partage votre choix musical, Morane, sur RFI, des millions de fois. Vous nous direz pourquoi juste après.
D'accord.
Je suis trouvé des fadaises, des tas, des raisons plus ou moins mauvaises, des lois. Étais-je puis les antithèses et les interdits, les croix. Comment les croix, je l'ai fait sur autrefois. J'ai trop attendu que ça vienne comme ça. Trouver puis qu'on me prenne le bras. On peut se noyer dans ses peines, bien nager c'est un choix. Oh, mon choix, c'est aujourd'hui me voilà. Le soleil est...
des millions de fois Morane sur RFI qui prend tout, hein. Voilà pourquoi ce joli choix musical, chère Marianne Chaillan, autour de la question « Où est donc le bonheur ?» Il est dans tout,
en prenant tout. Oui, en fait, tout à fait, cette chanson de Morane me fait penser à une expérience auquel Nietzsche soumet ses lecteurs. Il nous dit « Accepteriez-vous, si un démon vous condamnait à cela, de revivre votre vie à l'identique, non pas une fois, non pas 10 fois, mais des milliers, des millions de fois et celui qui parmi nous serait capable de dire « Eh bien oui, je suis capable, j'accepte de vivre ma vie » et de la revivre, c'est-à-dire passer à nouveau par les épreuves que j'ai traversées, et sans se braquer, c'est-à-dire celui qui est capable de dire oui, voilà, de dire oui à la vie, y compris dans ce qu'elle nous a réservé de tragique. Celui qui passe le test de l'éternel retour, l'homme fort chez Nietzsche, je crois, c'est l'homme heureux. Et dans ce texte de Jean-Jacques Goldman, chanté avec cette voix lactée des anges, comme disait Nougaro, de Morane, je crois qu'on a cette leçon de sagesse. Voilà, celui qui parmi nous peut chanter avec Morane, peine, je vous prends 100 fois. Même si c'est un combat, j'aime cette vie-là, et bien je crois que c'est ça le bonheur.
C'est probablement ça le bonheur. Autour de la question, où est-il donc? Ben voilà, il est peut-être là. Je rappelle que votre ouvrage, Marianne Chaillan, Où est donc le bonheur? Nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs, en cadeau pour vous, un petit moment de bonheur, pourquoi pas? Et autour de cette question du bonheur, sans illusion, sans naïveté, sans faux semblant, je propose tout de suite un dernier éclairage qui nous incitera peut-être à aller chercher aussi du côté de nos rêves. C'est l'éclairage de notre complice de Ciel d'Afrique, le planétologue Sylvain Boulet, qui soutient précisément les rêves de beaucoup d'astronomes amateurs sur le continent. On l'écoute tout de suite.
Je pense que le bonheur, évidemment, hein, on a ce côté partage avec nos amis, notre famille, mais il y a aussi tous nos rêves, quelque part, d'essayer de les réaliser. Je sais que si on, non seulement on les rêve, mais on s'en donne les moyens. C'est quand même quelque chose d'assez jouissif de se dire qu'on s'imagine qu'il y a une petite étincelle à un moment donné dans le cerveau qui nous dit qu'il faut aller là. Et en fait, le bonheur, c'est surtout... il faut s'en donner les moyens, il faut oser. Et c'est vrai que si on s'en donne les moyens et qu'on ose, finalement, tout est possible. Et c'est vrai que de réaliser finalement ce qu'on a imaginé, moi, je trouve que c'est une petite dose de dopamine qui est assez incroyable. Et il faut continuer. C'est-à-dire que plus on rêvera, plus on imaginera ce qu'on veut faire, plus je pense quand même qu'on est heureux. Parce que évidemment, plus on imagine, moins ça se passe comme on veut, c'est-à-dire dans le sens où on va finalement partir sur des chemins un peu escarpés, faire des rencontres qu'on n'avait pas prévues. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable de pouvoir aller dans des chemins qu'on ne va pas dominer, même si on en avait rêvé, quoi.
Marianne Chaillan, vous voulez réagir à ces propos de Sylvain Boulet ?
Oui, alors il y a des choses qui me plaisent et d'autres qui aussi.
Ouais,
voilà.
Oui.
Enfin, quand il dit réaliser ce qu'on a imaginé, c'est cette formule-là m'a fait sursauter parce que justement, il n'a pas dit que ça du tout.
Bien sûr, bien sûr.
Mais quand il dit c'est bien de réaliser ce qu'on a imaginé, évidemment, mais hélas, et il le dit après, hein, hélas, on ne réalise pas toujours et même pas souvent ce qu'on a imaginé.
Exactement.
Voilà. Et donc là, on est confronté à un sentiment d'échec qui pourrait pour nous dire alors je ne suis pas heureux puisque je n'ai pas réalisé ce que j'avais rêvé. Et je crois que finalement, donc le bonheur n'est pas d'avoir réalisé ses rêves, mais simplement d'oser, et ça il le dit, hein, il le dit très bien, d'oser rêver, d'avoir le courage de rêver.
C'est
ça. Peu importe, en définitive, que le rêve se réalise, mais oser se projeter, oser tenter le possible, ça oui. Mais évidemment, hélas, on l'a assez dit, tristement, hélas, le réel, vous l'avez cité avec Schopenhauer, hein, est une vallée de larmes. Et donc,
c'est ça, et la vie finalement est constamment en contradiction, dérèglement, mouvement. Vous citez Montaigne aussi, la vie, c'est advenir sans fin. Donc en fait, c'est aussi quoi ? C'est aussi s'adapter à tout ce qui advient. Alors si on l'a rêvé, tant mieux, mais de toute façon, si on réalise tous nos rêves, on ne sera pas plus heureux que ça. Donc quoi, c'est être dans ce mouvement-là, c'est oser, c'est créer, hein. Sylvain Boulet en parlait aussi.
Oui.
C'est vraiment la question de créer sa vie, de créer en s'adaptant à ce qu'il y a, en disant oui à ce qu'il y a. C'est ça. C'est vraiment un chemin de crête. Hein.
Vous voyez, quand vous parlez de créer sa vie, on revient encore à ce poème de Whitman, hein, prodigieux spectacle du monde continué, qu'on peut y apporter sa rime.
On peut y apporter sa rime.
Y apporter sa rime. Et puis, Et puis, vous parliez aussi tout à l'heure de Delphine Horviller, que j'aime beaucoup,
et qui
dans ses livres, cite un proverbe hassidique qui dit « Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un, tu risquerais de ne pas te perdre.
Wow. »
Et je crois que là aussi, on a une grande leçon. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut rêver, on peut prendre des chemins, on peut oser le possible. Et dans ce courage d'exister, et dans ce courage-là de sortir des sentiers battus, alors effectivement, il y a... Non pas parce qu'on trouverait au bout du chemin quelque chose, hein. C'est pas ce qu'on trouve au bout du chemin, c'est dans le geste même de marcher, de se mettre en mouvement, d'aller en avant.
C'est dans le chemin, on pourrait citer Machado, c'est ça, le chemin oui. se fait, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant, mais c'est vraiment ça, dans le chemin, vous dites dans le geste, dans
Exactement.
L'acte de créer, dans la oui. rime qu'on peut apporter au monde, enfin dans notre petit plus, peu importe ce qui se passe réellement, c'est ça, c'est vraiment, vous dites aussi vivre poétiquement.
Oui, tout à fait.
C'est ça, vivre poétiquement.
Oui, alors, dans ce livre, il y a des philosophes, des romanciers, oui. vous l'avez dit. Il y a aussi des expériences personnelles que j'ai pu traverser et dans la rencontre que j'ai faite, et notamment avec une élève dont je raconte l'histoire dans le livre, oui. et ça me paraît bien pour vos auditeurs. C'est justement quelqu'un, cette jeune fille, s'est retrouvée un jour face à un choix. Le choix de la facilité, le choix de la sécurité, le choix d'une existence confortable, rassurante. Mais était-ce vraiment une existence ? Mmh. Et puis le choix d'oser l'inconnu. Et de franchir le fort, puisque je parle d'une nouvelle de Camus où il y a un fort et un désert. Elle est partie dans le désert. Elle a eu ce courage-là. Où se trouve le bonheur ? Où donc est le bonheur ? Est-il dans le désert ? Va-t-elle trouver quelque chose qui aura justifié ? Ah, bravo, tu as fait le bon choix. Non ! Pour moi, le bonheur se trouve dans ce courage d'exister. Et c'est peu ça. Importe ce qu'elle trouve. Peu importe. Et ce livre est plein aussi de ces expériences vécues, vivantes, qui, comme on le disait tout à l'heure, montrent que la philosophie est un art de vivre, est une discipline théorico-pratique. Et donc vraiment, je l'ai souhaité et je l'ai écrit de manière très personnelle et très concrète.
À lire, vraiment. D'ailleurs, ce sont, je crois, vos derniers mots. Hein. Oser, vivez, créer, c'est presque vos injonctions de fin. Et là, je les prends, ces injonctions-là. Merci beaucoup, Marianne Chaillant, d'avoir été en duplex. Avec nous depuis les studios de France Bleu Provence à Aix. Merci à la technique sur place à Aix, à Bertrand Montandon. Et je vous rappelle, chers amis auditeurs, que nous avons un exemplaire et un seul, malheureusement, à vous offrir de cet ouvrage inspirant et inspiré, Où est donc le bonheur, signé Marianne Chaillant et édité par Les Équateurs. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre podcast, disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditrices et auditeurs, pour redécouvrir l'énergie du soleil, carrément notre étoile, avec l'un des plus éminents spécialistes de l'énergie solaire et photovoltaïque, Daniel Linco, invité cette année au Collège de France pour partager ses recherches lumineuses. C'est le cas de le dire, sous le soleil exactement, le soleil dans nos cœurs, et puis le soleil tout là-haut avec Hugo Violas à la réalisation, Raphaël Puxva en coulisses, Caroline Achevski au micro pour vous servir. Merci pour votre interactivité, merci pour votre curiosité. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.
Sept milliards de voisins.